un autre récit de la résurrection qui a été lu, donc, enfin, un récit qui a été lu déjà par Yann tout à l'heure. Donc un autre récit, hein, puisqu'il y a plusieurs récits en rapport avec la résurrection, et le Seigneur m'a parlé à travers ce récit. Et il m'a donné une parole d'encouragement que j'aimerais vous transmettre aussi. Parole d'encouragement pour plusieurs, et pour l'Église dans son ensemble aussi. C'est dans Luc chapitre 24. Luc 24. Verset 13. Tout à l'heure, on a chanté « Jésus se penche sur nos pas ». Et le récit, là, c'est justement Jésus qui rejoint deux personnes qui marchent. Deux personnes qui sont en marche, en train de marcher, et Jésus vient les rejoindre. C'est beau quand même, cette image. Et ce matin, j'avais vraiment cette image que nous étions, nous, en marche, aussi, et que Jésus nous rejoignait. Et qu'il fallait vraiment prendre conscience qu'il nous voyait et qu'il venait vers nous, chacun, chacune, pour nous rejoindre. Avec nos troubles, avec nos questions, nos doutes. Et c'est beau ce récit parce que ces deux disciples, ils nous ressemblent. Ou nous les ressemblons, si vous voulez. Alors on va lire ce récit et je vais ressortir trois choses que Jésus leur dit particulièrement. Et je pense que c'est une parole à propos en ce moment pour nous. Or précisément ce même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Et pendant qu'ils étaient absorbés dans leur discussion et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, hein, donc c'est dans une traduction parole vivante, hein, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Mais ils étaient frappés comme d'aveuglement et ne le reconnaissaient pas. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi pour que vous ayez l'air si triste. » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Serais-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un puissant prophète de Dieu. Il accomplit devant tout le peuple des actes extraordinaires. Il parlait avec autorité aux foules. Nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré que ce serait lui le libérateur d'Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est déjà arrivé. Il est vrai que quelques femmes qui font partie de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau ce matin avant l'aube et n'ont plus trouvé son corps. Elles sont même venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns des nôtres se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. « Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, dit le Seigneur. Vous êtes lent à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils voulaient se rendre. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse, le soir approche. » Alors il entra dans le village pour demeurer avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin ?» et lorsqu'ils nous découvraient le sens des Écritures, ils se levèrent de table, repartirent sur l'heure à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec d'autres disciples. Tous les accueillirent par ces paroles. C'est vrai, le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ces deux disciples, vraiment parce qu'ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent, nous leur ressemblons. Et je vois trois choses que leur dit Jésus, trois reproches qu'il leur fait, mais reproches avec tellement de douceur. Ce n'est pas des reproches qui mettent les disciples par terre, puisqu'au contraire, on voit qu'ils vont se remettre en route ensuite. Et Josette le soulignait, quelle douceur et quelle patience de la part du Seigneur quand même. Quelle douceur, quelle patience. Et ça, j'aimerais le soulever. Est-ce que vous sentez sa douceur et sa patience là? Malgré tout ce qu'il a dit à ses disciples et tout, les voilà encore dans le doute. C'est nous ça, nous sommes comme cela. Et il est patient, il est doux. Il prend du temps avec eux, il prend le temps de leur expliquer. Il s'assied avec eux, il prend le repas avec eux. Et je vois vraiment une situation parallèle avec nous. Je ne sais pas pourquoi, je me demande si, peut-être. En tout cas, moi, ça m'a touché en plein cœur. Ne sommes-nous pas quelquefois troublés, déçus dans nos attentes? On parlait dimanche dernier des « à quoi bon ?» Ceux qui étaient près de cette femme qui a répondu sans parfum, qui lui ont dit « mais à quoi bon ?» À quoi bon ? Peut-être vous entendez ça autour de vous. À quoi bon faire tous jeûner 40 jours ? À quoi bon ? Prier ? À quoi bon ? Semer une nuit de prière ? Lever tôt le matin ? À quoi bon ? Et il y a bien des moments où nous sommes déçus dans nos attentes. Nous sommes troublés. Et le Seigneur vient nous rejoindre. Et ce matin, le Seigneur vient rejoindre plusieurs qui sont troublés. Il m'a rejoint, moi aussi. J'étais vraiment encouragé ce matin par cette parole ici. J'ai vu beaucoup de promesses pour l'Église. Et puis, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a plusieurs qui partent. Bon, Seigneur, et tes promesses? Quelquefois, ça trouble. Et le Seigneur dit trois choses à ses disciples. 1. Pourquoi êtes-vous si triste? Qu'est-ce qui vous préoccupe pour que vous soyez si triste? Verset 13. Non, pardon, verset 17. Qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi que vous ayez l'air si triste? Est-ce que la tristesse nous gagne quelquefois? Oui. Pourquoi? Deuxième chose qu'il leur dit, au verset 25, vous n'avez pas compris grand-chose. Vous n'avez pas tout compris. Troisième chose qu'il leur dit, vous êtes lent à croire. Et voilà les trois choses que le Seigneur nous dit ce matin, mais que je vais transformer en mots d'ordre et en directive plutôt qu'en reproche. Derrière ces reproches, il y a un mot d'ordre, une directive, un appel que le Seigneur nous adresse en ce moment, individuellement et en Église. Et le premier, c'est ne te laisse pas gagner par la tristesse. Ne te laisse pas gagner par la tristesse. Attention. Attention. Ça vous est arrivé d'être gagné par la tristesse? Ça m'est arrivé, oui. Ça nous est arrivé peut-être plusieurs, peut-être cette semaine. Annette disait qu'elle ressentait une tristesse vendredi. ne te laisse pas gagner par la tristesse. Parce que je suis là, dit le Seigneur. Je suis là. Je suis là. Et moi, je suis encouragé parce que je suis sûr que vous avez été encouragé si vous vous mettez à chercher le Seigneur. Vous le trouvez ? Il est là. Ce matin, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Il était encore là. Une fois de plus, il était là. Il m'a parlé, il m'a donné une parole d'encouragement que je vous transmets ce matin. Je suis avec vous tous les jours. Il nous parle, il nous instruit. J'étais encouragé, Raphaël témoignera bientôt de ce qu'il a vécu à l'hôpital pendant une semaine, où je me rends compte que tout ce qu'il a vécu, c'est une réponse à ma prière sur le corps. Le Seigneur lui a enseigné sur le corps du Christ pendant toute une semaine à l'hôpital. Je mets ça pour vous mettre l'eau à la bouche, bientôt il témoignera, peut-être dimanche prochain. Il parle, il continue de parler, de nous instruire. Il est là. Et pendant que ses disciples d'Emmaüs marchent, il est là, ils ne l'ont pas reconnu encore. Voilà notre problème. Nous ne le reconnaissons pas toujours. Mais il est là. Et le Seigneur dit, mais pourquoi es-tu triste ? Je suis là. Je suis là. La tristesse peut s'expliquer parce qu'il y a un environnement d'incrédulité. La tristesse des disciples d'Emmaüs peut s'expliquer. Autour d'eux, il y a un environnement d'incrédulité. Il y a un autre texte d'ailleurs qui dit que les deux sont allés voir les disciples, ils ne l'ont pas cru. Alors c'est curieux parce que là, il semble qu'ils y ont cru, mais il y a un autre texte qui dit non, ils ne l'ont pas cru tout de suite. Et c'est vrai que nous sommes environnés d'un environnement donc d'incrédulité qui nous affecte. Et qui nous attriste. Mais le Seigneur est là. Il est parlé là de pourquoi vous préoccupez-vous, hein, le souci. Alors vous êtes sûr que dès que vous plongez dans le souci, vous allez vers la tristesse. Et le Seigneur, je me souviens d'une parole qu'il a dit à la rentrée scolaire, « Jean-Luc, je te mets sur une nouvelle terre qui s'appelle mon repos. Ne quitte pas cette terre. Mon repos. » Et le Seigneur rappelle cette parole ce matin à plusieurs. « Reprends, remets-toi sur le terrain du repos. Repose-toi, moi. Je suis là. » Dès que tu rentres, et moi je me suis laissé prendre ces derniers temps, j'ai dit, oh là là, Seigneur, comment je vais faire là? Dans deux semaines, j'ai ça. Repos. Repos. Si nous nous laissons gagner par la tristesse, nous nous éloignons de la cité de Dieu. Regardez là, les disciples, ils sont à 10 kilomètres de Jérusalem, se sont éloignés de la cité de Dieu. Et quand il se laisse fortifier par Jésus, il est dit un peu plus loin, sur l'heure, ils reviennent à Jérusalem. Et je crois que le Seigneur ce matin veut ramener plusieurs qui se sont peut-être éloignés de la cité de Dieu pour reprendre le chemin de la cité de Dieu. Ouais. Ne te laisse pas gagner par la tristesse. Je suis là. Je suis là. Et le Seigneur me disait ça, Jean-Luc, je suis là. T'inquiète pas. Laisse-moi conduire l'Église. Je suis là. Et la deuxième chose, vous n'avez pas compris grand-chose. Et je crois que le mot d'ordre, c'est comprend un peu mieux le plan de Dieu. Comprend le plan de Dieu. Comprend. Il fallait que le Christ souffre. Il fallait, selon les Écritures. Mais Annette l'a rappelé, nous voulons ressembler à Christ. Et le Christ n'a-t-il pas dit que nous allions prendre le même chemin? Il y a un livre, un best-seller dans le monde évangélique, Chasseur de Dieu. Vous connaissez ce livre? Dans ce livre, il y a un chapitre où il est dit que Dieu ne peut déverser sa gloire que sur des hommes morts, des femmes mortes. Mais on oublie sans arrêt cette vérité. Écoutez ce que Paul dit quand même. Je crois que c'est bon de revenir. Paul nous a instruit là-dessus. Et ce passage-là s'est imposé aussi à moi dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, on laisse un moment les disciples d'Emmaüs et il dit ceci, hein, au verset 7. Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu, non pas de nous. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases. On parlait tout à l'heure de fragilité. Qui la contiennent traquée, opprimée de tous côtés. Je ne sais pas ce que j'avais à la fin des 40 jours, j'étais le week-end dernier dans une oppression. Je me dis, mais comment ça se fait? Quelquefois, on se demande quoi, hein. Mais, cependant, traqué, opprimé, jamais subjugué par la peur, fréquemment désemparé, mais jamais abattu. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons pas quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée, mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse. Amen. Elle aussi, manifestement dans ce même corps, tout au long de notre vie, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus transparaisse aussi à travers notre corps mortel. C'est ainsi que la mort fait son œuvre en nous et que la vie peut alors s'épanouir en nous. Est-ce que nous comprenons le but de Dieu quand il se plaît de nous mettre dans un environnement d'incrédulité, quand il se plaît de mettre l'épreuve, quand il se plaît que nous ayons peu de résultats? Ah, nous aimons avoir des résultats, nous aimons le succès. Est-ce que nous comprenons que Dieu cherche à nous purifier? Paul a dit d'ailleurs un moment plus loin que la preuve de son autorité, il ne met pas les miracles en premier, la preuve de son apostolat. Il ne met pas les miracles, il met quoi? La patience à toute épreuve. La patience à toute épreuve. Voilà la preuve de l'autorité. Et Dieu me rappelait quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y a très peu de prédications là-dessus, que Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il veut protéger la pureté de notre relation d'amour avec lui. Il veut protéger la pureté de notre relation d'amour avec lui. Parce qu'il sait que nous pouvons aimer, par exemple, le succès plus que lui, le don plus que lui, la promesse plus que lui. La preuve, il a demandé à Abraham Isaac, son fils. Et j'ai l'impression que dans les temps d'épreuves que nous pouvons avoir, dans les temps qu'il permet ou les résultats ne sont pas toujours là, ouais, il nous teste comme il a testé Abraham pour que notre relation d'amour avec lui reste pure. Et cela m'a beaucoup encouragé. J'ai l'impression que le Seigneur nous dit cela en ce moment. Il me dit cela en tout cas très fort, Jean-Luc. Je veux préserver ta relation d'amour avec moi. Veux-tu être attaché à moi en priorité? Ou est-ce que tu préfères le succès de ton, enfin ton église, c'est pas la mienne, en premier? Protège ton cœur, je crois qu'il y en a d'autres qui ont entendu ça, hein. Protège ton cœur et le fruit viendra. Et le fruit viendra. Ça vraiment, je sens que le Seigneur veut faire une œuvre de purification. Il nous réclame nos Isaac. Il nous réclame nos Isaac. Oui, le chemin facile se présente à nous. Le chemin large se présente à nous. Mais aussi le chemin étroit. De cet amour exclusif. En premier. Avec lui. Est-ce que nous comprenons le but de Dieu? C'est la deuxième chose que Dieu nous dit. Est-ce que vous comprenez mon but? Est-ce que vous comprenez mon but? Et je vois une situation parallèle dans la Bible à ces disciples d'Emmaüs, c'est dans Malachie. On voit exactement la situation pareille où il est fait allusion à des hommes qui craignent Dieu, qui sont troublés. Ils sont troublés parce qu'ils voient des méchants réussir. Dans Malachie, chapitre 3, c'est tout à fait à la fin de l'Ancien Testament. Tout à fait à la fin. Et c'est vraiment un parallèle avec les disciples d'Emmaüs. Vraiment. Et nous qui, quelquefois, accusons Dieu de dureté, là, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes, à ses enfants, et puis il leur dit, vous n'êtes pas un peu rudes de temps en temps à mon égard, hein? Malachie 3, hein, verset 13. Vos paroles ont été dures contre moi. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Vous avez dit, mais en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse, encore la tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Voyez encore la patience de Dieu, la condescendance de Dieu. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront, dit une autre version. Voilà le but de Dieu. Le Seigneur ne veut pas des religieux. Il y a Rick Joyner qui a une vision, la vision de la cité de Dieu et de la cité chrétienne. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous assure, il faut lire ça. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Dieu ne veut pas des religieux. Mais il veut des amoureux. Un amour exclusif pour lui. Ils m'appartiendront. Ça, c'est le but que Dieu cherche. Voilà pourquoi il peut permettre toutes sortes d'épreuves pour que tu apprennes à t'attacher à lui seul. Il te teste, il nous teste. le Seigneur. Ils m'appartiendront. Et la dernière chose, j'en termine là, après, ne te laisse pas gagner par la tristesse. Après, comprends mon but. La troisième chose que Dieu dit, à travers ce reproche, vous êtes lent à croire. Reconnais les signes que je te donne. Je crois, il nous dit ça. Mais reconnais les signes que je te donne. Peut-être, il y a des dans l'apparence, la situation, c'est tout le contraire. Dans une situation où tout est contraire de ce que le Seigneur peut-être nous a promis, le Seigneur nous donne encore des signes. Il a donné des signes aux disciples d'Emmaüs. Il a envoyé des femmes. Nous sommes allés, nous avons trouvé le tombeau vide. Non, aucun effet. Rien du tout. Néant. Aucun effet. Aucun. Les femmes sont allées trouver les 12 apôtres. Nous avons vu. Non. Aucun. Mais c'est nous, ça. Nous sommes lents à croire. Et nous avons du mal à reconnaître les signes que Dieu nous envoie, que Dieu nous donne. Et le Seigneur me donne des signes en ce moment. Vous savez, il m'en donne. Vous savez, dans cette période qui peut paraître stérile, Dieu me donne des signes en ce moment dans mon travail. Quelqu'un qui me dit, une secrétaire, il n'y a pas longtemps, Jean-Luc, ce que tu m'as donné, tu sais, les paroles là. J'ai pleuré. Vous savez, quand quelqu'un vient vous dire ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit est à l'œuvre, nous devons saisir ces choses comme des signes. Il m'arrive d'annoncer l'Évangile au micro aussi devant des élèves. Et pas longtemps encore, un professeur est venu me voir, Jean-Luc, tu sais ce que tu as dit là ce matin, vraiment ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, est-ce que nous savons voir ces signes au milieu du désert et de l'aridité? Dieu est prêt à nous envoyer des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif. Alors ne nous laissons pas gagner par la tristesse. Comprenons le but de Dieu et reconnaissons les signes qu'il nous envoie, les paroles prophétiques qu'il nous donne. Moi, je ne peux pas oublier cette parole de Carlos. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors si la porte est ouverte, ne regardons pas l'apparence. Et l'autre jour, je pense que Josette nous rappelait en conseil, vous savez, il y a 4-5 ans, avant que nous achetions cette salle, notre ancien trésorier nous avait dit, c'est fini, hein, dans peu de temps, mets la clé sous la porte. Il nous avait dit ça, j'avais oublié qu'il avait dit ça. Un an après, nous achetions la nouvelle salle. Alors les nuits peuvent être soufflées, tu sais, il y en a plusieurs qui partent maintenant, c'est fini. Hein. Dans peu de temps, tu mets la clé sous la porte. Non. Le Seigneur nous a donné des signes. Il nous a donné des signes, il nous a donné des paroles. Et j'étais très encouragé, je n'ai pas demandé la permission, Nadège, mais je fais juste une allusion, hein, tu as eu un songe. Et c'était un puissant encouragement ce que tu as reçu. Parce que finalement, c'est vrai, une parole prophétique disait que il fallait reconnaître qu'on est sec. Et en même temps, cette même personne nous a dit, voilà, reconnaissez que vous êtes sec, mais en même temps, dans 2 ans, cette salle sera trop petite. Ouh, est-ce qu'il y a contradiction? Et dans ton songe, c'était vraiment l'image de que Dieu, le Saint-Esprit se déversait parce que tu étais là simplement où le Seigneur voulait, quand il le voulait. Et voilà la clé. Nous pouvons être faibles, nous pouvons sentir notre fragilité plus que jamais, et c'est bon parce qu'on va dépendre de lui. Et il nous reste juste dans notre fragilité à obéir au Seigneur. Et je crois que le temps maintenant dans les jeûnes et prières, c'est de dire Seigneur, allez, qu'est-ce que tu veux, où tu veux qu'on aille, quand tu veux, ici dans ce quartier. Et si nous obéissons, le Seigneur déversera sa puissance. Il le fera. Il nous faut reconnaître les signes. Voilà les 3 paroles que Dieu nous dit, je pense. Ne te laisse pas gagner par la tristesse. Comprends mon but. cet amour exclusif. Et reconnaît les signes. Et en conclusion, vous voyez dans ce texte Luc 24, vous pouvez le reprendre. Et puis Lovdé, tu peux peut-être venir ici. Là, on va prendre un tout petit temps, il nous reste quelques minutes. Ouais, juste au synthé, hein, peut-être, ouais, si tu veux bien. Un tout petit temps. On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut, hein, vraiment. Nous renouveler, nous rejoindre. Les disciples d'Emmaüs, pendant que Jésus leur parlait, il y a eu comme un feu qui est venu sur leur cœur. Hein. Hein, dans Luc 24, c'est au verset, oups, j'ai perdu la page, voilà, 32. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur? Le Seigneur veut remplacer la tristesse par le feu, à nouveau. Un feu intérieur qui vous consume. Ah, peu importe ce qu'on dit de vous, John le disait, peu importe ce qu'on pense de vous, peu importe si on vous critique, vous avez ce feu en vous. Vous aimez Dieu, Dieu vous aime. N'est-ce pas l'essentiel? Et ce feu vous amène à reprendre la route de Jérusalem, la route de la cité de Dieu. Souvent, devant la souffrance, on a le choix. On peut maudire Dieu, maudire tout le monde. Mais on ouvre une brèche à l'activité démoniaque. Réfléchissons. Hein. Ou nous pouvons au contraire laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Est-ce que tu veux prendre un nouveau départ ce midi par rapport à ta réaction vis-à-vis de la souffrance? Est-ce que tu veux dire, j'arrête de maudire, d'en vouloir à tout le monde? Mais je veux laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en moi. Je veux ce feu. Je ne veux plus cette tristesse. Je la laisse maintenant. Je la laisse maintenant. Je veux ce feu et reprends la route de la cité de Dieu. Amen. Alors j'aime beaucoup, vous savez, les gestes, mais personne n'est obligé de répondre. Mais je crois que le geste, quelquefois, nous aide à la vraie démarche, nous aide à la démarche. Je me dis, ben, peut-être si ce message a fait écho et que vous voulez, que vous êtes un peu éloigné de la cité de Dieu, vous êtes un peu éloigné, vous voulez reprendre le chemin de la cité de Dieu, ben, simplement, on peut se retrouver près de la croix, comme cette démarche, comme les disciples d'Emmaüs, qui sur l'heure ont repris la route de Jérusalem. Sur l'heure ont repris la route de Jérusalem. Et la croix est vide et le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Amen. Voilà. Recevez ce feu. Recevez ce feu de Dieu. Voilà. Soit sur place, c'est comme vous voulez, ou soit si vous voulez associer le geste, ça, c'est comme le Saint-Esprit vous conduit. Vous pouvez vous approcher de la croix, tout simplement, pendant que Lovdé, tu joues un petit peu. Hein. Voilà, on laisse le Saint-Esprit nous remettre sur les rails. Et peut-être que je prierai pour l'un pour l'autre, John et Beryl, peut-être aussi, si vous avez à cœur de prier, ou Yann, Elisabeth aussi, hein. L'un pour l'autre, eh bien, vous pouvez le faire. Je vous invite à vous lever, hein, d'accord? Vous levez de votre place. Et ceux qui le veulent, vous approchez de la croix.